Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. C'est vraiment avec une grande joie que nous voulons vous accueillir. Vous êtes ici chez vous, alors faites comme chez vous, d'accord? Aujourd'hui, nous sommes venus encore pour adorer notre Seigneur et pour le célébrer également. C'est vrai que ces temps de retrouvailles ensemble, c'est faire aussi comme nos amis d'avant. Les disciples de Jésus qui prenaient ce temps en fait aussi de se réunir tous ensemble pour partager ensemble la parole, pour s'édifier ensemble et pour louer Dieu ensemble. Et c'est ce que nous voulons faire chaque dimanche. Nous savons que vous le faites à la maison, mais c'est vraiment ces temps aussi de joie aussi que nous pouvons passer ensemble. Et là où deux ou trois sont assemblés en son nom, au nom de Jésus, eh bien, il est au milieu de nous, n'est-ce pas? Amen. Nous croyons que Jésus est au milieu de nous. Et si ce n'est pas le cas, nous l'invitons. Nous disons, Seigneur, sois au milieu de nous parce que tes enfants sont là. Ils veulent t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Amen. Je ne sais pas comment ça a été votre semaine. Elle a été bien? Ouais. On va dire oui? Oui. On est chrétien, on dit toujours oui. On dit notre semaine, ça va. Grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Voilà. Voilà, mais tu sais, Dieu est là. Mais on a le droit de dire que notre semaine s'est mal passée. La mienne ne s'est pas très bien passée. Voilà. C'était une semaine éprouvante. Et pas seulement pour moi, mais aussi pour ma femme. Aussi. Donc, c'était pas facile. Mais effectivement, j'ai pu remarquer que Dieu était là en fin de semaine. Et oui, c'était en fin de semaine que je me suis posé et j'ai dit, mais c'est Dieu, heureusement que tu as été là. Mais toute la semaine, c'était compliqué. On peut crier à Dieu et des fois, on ne l'entend pas. Et parfois, on n'a pas tout de suite la réponse. Et au final, il est là. Il est là, il m'a pour montrer sa présence. Et ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait que dans ton attitude, comment tu as pas, où tu as mal réagi? Eh ben, j'ai compris que c'est la place que je n'avais pas dans toutes ces difficultés, c'est la place que je n'avais pas donnée à Dieu. Il y avait plein d'agitation, mais il y a une place que je n'ai pas donnée à Dieu. J'ai oublié de l'inviter à chaque fois. C'était pas constant. Et puis quand tu le fais, mal, Seigneur, aide-moi s'il te plaît, mais ce n'était pas quelque chose de, c'était pas une prière vraiment sincère et profonde. Et ça m'a fait repenser ce matin à ce livre dans Luc et ces deux sœurs que vous connaissez très bien. Hein, c'est dans Luc 10, ces deux sœurs, Marthe et Marie. Où Jésus était invité chez elles et il y a eu Marthe hein, qui s'agitait. Hein. Je ne sais pas si vous avez des sœurs, moi j'en ai deux. Donc ça me parle beaucoup. Hein. Et elle s'agitait beaucoup. Et l'autre était assise auprès de Jésus, c'était Marie, l'autre, hein. Et elle écoutait ce que Jésus disait. Et comme vous savez, comme vous connaissez, peut-être que vous l'avez déjà fait, je pense que quand vous vous agitez comme ça, vous regardez l'autre assise là, vous lui dites, je suis là en train de m'agiter, de faire nécessaire pour pouvoir accueillir Jésus, et toi tu es assise là, tu ne m'aides pas. Elle devait penser ça fortement, mais à un moment... Elle nous ressemble. On ne va pas s'adresser directement à notre sœur, mais elle s'est adressée à Jésus. Mais Jésus, tu ne vois pas qu'il y a un problème? Elle n'a pas dit ça comme ça, mais je mets ça de manière moderne. Tu ne vois pas qu'il y a un problème? Il y a Marthe là. Il y a Marie là, elle est assise là. Elle ne m'aide pas. Hein? Elle ne m'aide pas. Il n'y a pas un problème? Et Jésus lui dit, non, il n'y a pas de problème, en fait. Mais Marthe, voyons Marthe. Marthe, voyons. Ben Marie, elle a choisi la meilleure part. La meilleure part. Et je crois que c'est cette part-là que je n'avais pas choisi, en fait, me mettre directement auprès de mon Seigneur. M'asseoir, me poser dans toutes ces difficultés et demander à Dieu son concours. La meilleure part, c'est choisir Dieu et sa parole. Être à l'écoute de sa parole. Être, boire, en fait, ce qu'il a à nous dire. Et c'est ce que Marie a fait. Marthe, elle s'est laissée agiter, en fait, par le fait de pouvoir s'accueillir. Et c'est une bonne chose, hein. Je ne dis pas ne pas s'accueillir. Hein, faut, parce que d'ailleurs, les disciples, ils prenaient le temps de bien s'accueillir les uns les autres. Et même les familles, les veuves, l'orphelin, ils faisaient ça. C'est un principe. C'est beau, c'est bien de faire ça. Mais parfois, on se laisse troubler par ça. Et c'est ce que j'ai fait cette semaine. Je me suis laissé troubler. Mais heureusement que, et là je dis grâce à Dieu, cette semaine s'est bien passée, c'est pas terminé, sans que je puisse avoir une de réponse, même pouvoir me corriger. Mais j'ai compris qu'il fallait que je me remette à Dieu. Choisir d'écouter Dieu, choisir de le prier, choisir de passer du temps vraiment avec lui, c'est la meilleure part que nous puissions avoir à faire. C'est ça l'essentiel. Et je voudrais vraiment, en fait, que, en ce matin, que vous puissiez aussi choisir la meilleure part. Hein? C'est comme qu'on a un gâteau. On veut toujours, quand il y a des défauts dans le découpage, quand c'est pas bien, on veut toujours la plus grosse. En tout cas, moi, je suis comme ça. Voilà. Donc, on prend la meilleure part. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut faire. Et aussi, aujourd'hui, c'est un culte aussi. La meilleure part, c'est de donner aussi à Dieu. On n'est pas là pour, non plus pendant ce culte de louange et d'adoration, on est là aussi pour donner à Dieu. Parce qu'il nous a tellement bénis pendant la semaine, il nous a tellement fait du bien, il nous a tellement relevés, et tous ici présents, on peut le témoigner, Dieu nous a fait du bien, nous a restaurés. Là où on ne pensait pas, mais Dieu nous a restaurés. Amen. Et aujourd'hui, on veut lui dire merci. Alors tous ensemble, j'espère que vous êtes prêts à dire merci au Seigneur. Seigneur, nous te prions, parce que Seigneur, tu es l'Éternel. Parce que Seigneur, tu fais ce que tu veux, éternel Dieu. Et parce que Seigneur, tu réponds en ton temps, tu bénis en ton temps, éternel Dieu. Mais tu bénis, Seigneur. Tu restes le Dieu miséricordieux. Tu restes riche en bonté. Tu restes lent à la colère. Alors merci, Seigneur. Merci d'être celui qui est toujours prêt à nous défendre lorsque nous avons besoin. Tu es le Dieu de justice. Tu affectionnes la justice, éternel Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te louer, tout simplement. Te louer pour tes bienfaits. Te louer parce que tu nous as tellement donné. Te louer parce que ton nom, Seigneur, est digne d'être loué. Mais nous voulons aussi t'adorer parce que tu es l'Éternel. Parce que tu es bon, Seigneur. Parce que tu t'es donné, Seigneur, un jour sur la croix pour nous. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'adorons pour cela. Et nous invoquons ton nom, Seigneur, en ce matin. Nous voulons, Seigneur, que ta présence puisse remplir ce lieu, Seigneur. Nous voulons aussi que tu puisses nous rafraîchir. Nous voulons aussi que, durant ce temps aussi que nous t'offrons, Seigneur, que tu puisses agir puissamment dans nos vies. Nous avons tellement besoin de toi, éternel Dieu. Alors, manifeste-toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Tel que je suis.
comme l'eau de ruisseau, ta présence coule en moi, comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur, ta confiance m'est
de sa présence et d'effacer en nous tout ce qui serait une entrave à ce que notre louange soit, notre adoration puisse monter vers lui.
Tu n'as pas attendu que je
certains veulent élever la voix, exprimer leur reconnaissance à notre Seigneur et Sauveur Jésus, c'est le moment. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la grâce, Seigneur, à toute la gloire qui t'est due, éternel Dieu, parce que tu es l'éternel. Nous voulons te dire merci aussi pour ces enfants, Seigneur, que tu as donnés, Seigneur, à cette église. Que tu puisses aussi bénir ce temps de culte qu'ils ont, Seigneur, d'enseignement de ta parole, et qu'ils puissent la mémoriser, Seigneur. Bénis aussi leur monitrice, Seigneur, qu'elle puisse leur enseigner avec la bonne pédagogie, Seigneur, et susciter, Seigneur, en eux l'intérêt de Seigneur pour ta parole et l'amour de ta parole. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Nous voulons, quant à nous, qu'on continue à élever le nom de notre Seigneur. Lui qui est le roi de gloire. Lui qui nous a aimés. Lui qui a su soulever, Seigneur, des nations à sa cause. Lui qui s'est donné pour nous, qui s'est revêti de nos péchés, de nos fautes, d'hier, d'aujourd'hui et celle de demain. Nous voulons élever et lui dire Hosanna. Hosanna. Oh,
Seigneur. Hosanna, hosanna à toi, Seigneur. Hosanna, hosanna à toi, Seigneur.
Oh mon cœur,
oh mon cœur, ne tremble plus. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer.
Encore te ressembler, Seigneur, encore plus de ta présence, Seigneur. Nous voulons encore vivre, faire la différence aussi dans ce monde, Seigneur, qui se meurt et qui est sans espérance. Nous voulons marquer notre génération, éternel Dieu. Marquer notre génération par ton impact, Seigneur, dans nos vies, éternel Dieu. Nous voulons qu'ils découvrent qui est Christ, la personne de Christ, celui qui nous a sauvés, Christ notre Sauveur. Apprends-nous, Seigneur, encore à mieux te connaître, à mieux te connaître, à mieux connaître Christ, à mieux encore invoquer ce Christ qui nous a sauvés et qui a mis fin à toute condamnation, Seigneur, à notre égard. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui t'ont appelé en Jésus. Ô Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Lorsque nous sommes accablés, Seigneur, c'est dans tes bras, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, nous réfugier. Parce que toi, tu es humble et doux de cœur. Ô Jésus, attire-moi à toi, Seigneur. Je me réfugie, vivre avec toi, c'est le seul désir de mon cœur, c'est le seul désir de mon cœur. Je me prosterne, je me prosterne, à tes pieds je me repens. Thank you.
j'ai connu. Prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras. Thank you.
l'éternel règne. Il est majestueux, l'éternel règne.
Bonjour bien-aimés, nous voulons toujours remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Il est l'Éternel et c'est lui qui existe d'éternité en éternité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son règne n'a point de fin. Pour la durée des temps, l'Éternel règne. Et son règne, et parce qu'il est l'Éternel, et parce qu'il est le Créateur de toutes choses, c'est lui qui sait tout. C'est lui qui connaît tout. Et c'est lui qui nous révèle les choses qu'il a prévues de faire. N'est-ce pas? Quelquefois, nous ne comprenons pas tout. Beaucoup de fois, nous sommes même peut-être perdus. Parce que nous sommes des êtres humains. Parce que nous sommes limités dans notre connaissance. Et parce que le péché originel ne nous a pas aidés non plus. Le péché nous a rétréci la connaissance de Dieu. Et un apôtre disait que nous connaissons Dieu comme au travers d'un miroir. Nous le connaissons imparfaitement. Et lui, sa volonté, c'est de se révéler à nous, jour après jour. Il se révèle à nous dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Et une fois qu'on l'a reçu dans son cœur, qu'on a reconnu notre état de pécheur, qu'on a demandé pardon à Dieu et qu'on l'a accueilli dans notre cœur, alors à partir de ce moment, il nous aide à le connaître de plus en plus. Et il se révèle au travers sa parole, la Bible, parole de Dieu. La Bible, parole de Dieu. Et c'est cette parole qui est notre guide, n'est-ce pas? Et le psaume disait, comment quand on est jeune, marcher droitement? Il dit, c'est selon l'éclairage que nous apporte la parole de Dieu. Nous avons commencé depuis quelques semaines à regarder le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, le livre de la Révélation. J'ai beaucoup expliqué qu'en fait, le thème qu'on a utilisé en français, qui est une transcription du mot grec, a donné quelque chose d'apocalyptique. Hein. Ça veut dire quelque chose qui fait peur, quelque chose de catastrophique. Alors qu'en principe, le thème qui serait le plus adéquat, même la meilleure définition du thème apocalypse dans la Bible veut dire révélation. Les choses qui vont venir, que Dieu lève un voile pour que nous puissions apercevoir un aspect, pas tout clairement, mais un aspect. Parfois je me demande pourquoi il a donné ce livre avec comme un voile. Vous savez, vous avez des rideaux qui sont parfois des rideaux très fins, hein, et dont on peut voir au travers ces rideaux. Parfois, s'ils sont clairs, on a l'impression même de voir clairement. Sauf que il y a quand même un voile. Et qu'on voit la personne, mais on ne peut pas tout distinguer clairement. On ne peut pas distinguer les traits de visage de façon très nette. On peut reconnaître la personne au travers ce rideau. Mais si on nous demandait de décrire comment son visage est, est-ce qu'il y a des choses sur son visage, on serait un peu mal à l'aise parce que le voile empêche qu'on voie clairement le visage. Et la révélation est un peu comme ça. Dieu a donné une vision, une révélation des choses qui allaient venir. Il les donne au travers d'un voile. Donc on voit la grande partie de ce qui va arriver, mais on a du mal à tout percevoir. Et je me suis convaincu que Dieu l'a fait exprès. Pourquoi? Parce que les autres livres, il a permis qu'ils soient écrits clairement. Pourquoi celui-là, il le fait comme ça? Je pense que l'une des choses qui milite en faveur de ça, c'est le fait que finalement, Jésus a cette parole à Thomas. Il dit, Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais il ne dit pas ceux qui croient sans rien, puisque dans l'épître aux Romains, il va dire quoi? Il va dire que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ça pour dire que même si ce livre nous est donné au travers d'un voile, Dieu jauge aussi notre foi et notre confiance. Si tout était clair, ça serait tellement facile de croire en Dieu. Et pourtant, Dieu fait en sorte que tout soit clair parce que justement, il donne l'Église pour que l'Église explique le livre de l'Apocalypse. Donc on ne peut pas faire le procès à Dieu en disant « mais t'as donné, mais c'est pas clair, finalement ». Mais en même temps, Dieu aime les gens qui lui font confiance. et qu'ils ne font pas parce qu'ils ont tout compris, mais parce qu'ils ont compris l'essentiel et qu'ils lui font confiance pour la suite, n'est-ce pas? On a déjà vu le chapitre 1 et le chapitre 2, en tout cas le début du chapitre 2 avec l'église d'Éphèse. Et j'aimerais parler de quelques-unes des autres églises ce matin, pour le temps qui nous est imparti. On verra peut-être globalement un schéma de toutes ces églises, mais en même temps, la spécificité peut-être de trois d'entre elles. Dieu, en Jésus-Christ, lorsqu'il se révèle à l'apôtre Jean pour que celui-ci écrive le dernier livre de la Bible, il adresse ses premières révélations à l'Église. Les premières choses qui concernent la fin des temps et les choses à venir sont adressées d'abord à l'Église. Pour tous ceux qui sont ici avec nous depuis quelque temps, avec les formations que nous faisons, au travers de la Bible, nous avons compris que l'Église est la chose, l'organisme, la structure que Dieu a choisie depuis l'avènement de Jésus-Christ pour révéler son royaume. L'Église est le plan central de Dieu. C'est la stratégie centrale de Dieu. Et comme c'est la stratégie centrale de Dieu, il commence les choses de la fin en s'adressant à l'Église. Mais vous savez aussi que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Que l'Église, ce n'est pas la structure. L'Église, c'est les hommes et les femmes qui ont donné leur vie à Jésus. C'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau. Donc quand il s'adresse à l'Église ici, il ne s'adresse pas à un bâtiment. Il ne s'adresse pas à une structure. Il s'adresse à des hommes et à des femmes. Donc il s'adresse à nous, qui sommes des chrétiens et chrétiennes qui formons l'Église de Jésus-Christ. Il utilise le chiffre 7, parce que dans la numérologie biblique, avec la façon dont Dieu utilise ce chiffre, on voit que c'est le chiffre de la plénitude. Ce n'est pas un chiffre en tant que tel qui est un chiffre quantitatif. Hein. Ce n'est pas qu'il n'y a que 7 églises. C'est parce que Dieu, toujours en pédagogue, il prend ces 7 églises pour représenter l'ensemble des églises. C'est une pédagogie de Dieu. Mais en même temps, c'est des églises qui ont bel et bien existé. Mais pour ceux qui ont une culture biblique, vous savez que les églises du Nouveau Testament, du premier siècle, il n'y en avait pas 7. Il y en avait bien plus que cela. Il y avait bien plus que cela. Va tout en bas, à la dernière page. Je vais vous montrer à peu près un schéma. Encore, vas-y encore. Voilà. Ça, c'est les églises qui étaient autour de ce qu'on appelle l'église d'Éphèse, qui était comme une église stratégique, une église, on va dire une église mère. Et quand l'apôtre Paul a fait le travail d'évangélisation, on voit que c'est toutes ces églises satellites autour qu'il a implantées. Milet, Smyrne, Assos, Troaste, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Hierapolis, Laodicée, Colosse. J'ai un autre schéma qui est encore plus éclatant parce qu'il vous montre toutes les églises qui ont existé depuis le 1er siècle jusqu'au 3e siècle. Et c'est des centaines et des centaines d'églises. Mais quand Dieu, en Jésus-Christ, s'adresse pour le livre de la fin à la révélation, il s'adresse premièrement à cette église, à l'église d'Éphèse. C'est ce qu'on a vu pendant deux dimanches. Il dit, écrit à l'ange d'église d'Éphèse. Et vous savez ce qu'il a dit à cette église. Il dit, tu es solide. Bibliquement, tu es bien assise. Et je bénis mon Dieu parce que tu es solide dans la parole de Dieu. Tu as persévéré. Il dit, par contre, ce que je te reproche, c'est que tu as perdu ton premier amour. Si tu ne reviens pas à ce premier amour, je vais éteindre le chandelier qui est au milieu de toi. Et on a vu que dans l'histoire, l'église d'Éphèse a disparu. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une église vivante à Éphèse. C'était une sanction. Et par la suite, il va s'adresser à l'église de Smyrne, ensuite à l'église de Pergame, ensuite à l'église de Thyatire, à l'église de Sardes, à l'église de Philadelphie et à l'église de Laodicée. Et toutes ces églises représentent finalement les différents visages de l'église que l'église va malheureusement ou heureusement prendre au cours de l'histoire de l'humanité jusqu'au retour de Jésus-Christ. Quels sont ces visages? On revient à la première page, s'il te plaît. Les sept visages de l'Église, n'est-ce pas? L'Église d'Éphèse, c'est le visage de l'Église qui perd son premier amour. Après avoir bien commencé, après avoir été bouillant pour le Seigneur, alors qu'elle est assise dans la parole de Dieu, elle a perdu le zèle pour Dieu. Et ça, on en a parlé il y a quelques deux dimanches, donc je ne reviens pas dessus. On l'assimile à peu près, parce que vous savez que les révélations bibliques, on dit, elles ont toujours deux accomplissements. L'accomplissement dans le temps présent où la révélation est donnée, et l'accomplissement pour les temps à venir, selon la pensée et la projection que Dieu donne. Donc on estime que l'église apostolique, donc l'église des apôtres, le premier siècle a été une église vraiment bouillonnante pour le Seigneur, et au deuxième siècle, on a eu l'impression que les choses ont un peu reculé, que l'église a perdu un zèle. Ensuite, il s'adresse à l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, c'est l'église persécutée. On va le voir tout à l'heure quand on va lire ce texte. C'est une église qui a été vraiment persécutée, une persécution atroce sous les empereurs romains. Et c'est là qu'on a ce qu'on appelle la martyrologie. La martyrologie, donc l'histoire des martyrs. Et l'un des martyrs de cette époque, de cette église de Smyrne, s'appelle Polycarpe, le martyr de Polycarpe. Et c'est des moments atroces où ces gens, à cause de leur confiance en Dieu, ont été tués atrocement. Les gens étaient ingénieux pour persécuter les chrétiens. À cette époque, vous savez qu'il y avait les jeux du cycle, hein, ce qu'on appelle le cycle, c'est pas le cycle d'aujourd'hui, c'est dans l'arène où il y avait des gladiateurs qui se combattaient à mort et à vie. À mort du moins, et parfois on lâchait des bêtes fauves comme des lions. Et dans ce temps de persécution, parfois on disait aux chrétiens, est-ce que tu réunis ton Jésus? S'ils ne réunissaient pas, on les jetait tous dans l'arène, on lâchait les lions. Monsieur. C'est l'église persécutée, Smyrne. Ensuite, il y a l'église de Pergame. L'église qui est devenue une église d'État. Il semble que quand l'Église se sent trop importante et qu'elle devient une Église étatique, elle perd quelque part sa force. Elle devient une Église qu'on appelle une Église paganisée, puisqu'elle doit plaire à tout le monde. Et pour plaire à tout le monde, elle fait trop de compromissions. Et Jésus le dit dans cette lettre à Pergame. Thyatire, c'est l'Église qui s'est prostituée, donc qui s'est livrée à l'idolâtrie. Vous savez que le terme de la prostitution dans l'Ancien Testament, Dieu l'utilise pour Israël à chaque fois qu'Israël allait adorer des idoles plus que Dieu. Et parfois, Israël adorait les idoles de tous les autres peuples, donc finalement, il n'avait plus qu'un seul Dieu, il avait plusieurs dieux. Et Dieu prend cette image et dit, tu t'es prostitué avec les dieux païens. Et Thyatire, c'est une église, et on le verra aussi dans la lettre, qui s'est prostituée finalement, parce que, voilà, elle a fait beaucoup de syncrétisme. Vous savez, le syncrétisme, c'est un mélange de foi chrétienne et un mélange de tradition. Et les deux ont la même valeur. Et parfois, quand vous êtes dans ce type d'église, vous avez l'impression que vous êtes une église chrétienne, parce que tout ce qu'on dit, c'est des thèmes chrétiens. Et puis, quand vous voyez des façons de faire ou des habitudes ou des... Vous dites, oulala, où je suis ici? Je ne comprends pas très bien. Et puis il adresse à l'église de Sardes. Une église que tout le monde croit qu'elle est vivante. Mais en fait, il dit tu es morte. Mais tu t'en rends même pas compte. Et ça, c'est une invitation aux églises. Parfois, on peut être en pleine activité, ça bouge de partout. L'église est waouh! On casse les murs, elle s'agrandit, il y a du mouvement. Mais est-ce qu'il y a encore la vie? Il dit, Sardes, c'est comme ça que tu es. Puis il s'adresse à l'église de Philadelphie. C'est la meilleure des églises. Il ne lui adresse aucun reproche. C'est l'église fidèle. Et puis enfin, la dernière église, c'est Laodicée. L'église des compromis. L'église qui s'enlise Où pouvons-nous nous situer, nous, en tant qu'église de Créteil? Nous sommes comme Éphèse, ou plutôt comme Smyrne, comme Pergame, comme Thyatire, comme Sardes, comme Philadelphie, comme Laodicée. Mais en fait, quand je dis où nous sommes, nous, en tant qu'église de Créteil, je ne parle pas de la structure de l'église, je parle de nous en tant que chrétiens et chrétiennes. Frères et sœurs de Créteil, où sommes-nous, nous? Où sommes-nous? Nous sommes déjà interrogés, est-ce que nous avons perdu notre premier amour? On en a déjà parlé, je ne reviens plus dessus. Ce matin, on va essayer d'avancer avec l'église de Smyrne et de Pergame. Tu peux mettre le texte de l'église de Smyrne. Merci. Voilà. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. À l'ange de l'église de Smyrne, écrit. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter. Et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Amen. L'église de Smyrne était une église qui connaissait une grande persécution. Et c'est pour cela que quand Jésus se présente à cette église, il dit « Je suis celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. » Parce que la persécution à Smyrne allait jusqu'à la mort des chrétiens. En se présentant comme celui qui est mort et ressuscité, il les encourageait dans cette période tragique et douloureuse pour cette église de Smyrne. Smyrne était une grande ville prospère, n'est-ce pas? Mais les chrétiens y étaient persécutés. Jésus fait des éloges à cette église. Il dit, je connais ton affliction, je connais ta pauvreté et pourtant tu es riche. À cause de leur foi chrétienne, sont-ils avec les recherches historiques, les chrétiens d'église de Smyrne ne trouvaient pas du travail parce que la plupart des corps professionnels de l'époque étaient attachés à l'adoration d'une idole. Et quand on les invitait à embrasser un métier, on les invitait aussi à embrasser l'idole du métier. Et les idoles, ce n'était pas juste des idées, c'était vraiment des statuettes et tout ça. Et les chrétiens refusaient. Et vu qu'ils refusaient, ils disaient, mais si tu refuses, on ne te donne pas ce travail. Donc matériellement, les chrétiens de Smyrne étaient des chrétiens pauvres. Mais parce qu'ils avaient choisi de suivre Jésus plutôt que d'adorer les faux dieux. Ils ont payé le prix fort matériellement. Dans l'histoire, pas loin de la France, on le sait. Parce que dans les Cévennes, dans cette France du Sud, les chrétiens protestants ont payé le prix fort. Parce qu'ils ont dit, c'est Jésus et pas l'église catholique. Ils n'avaient pas droit à des sépultures, ils n'étaient pas des citoyens comme les autres. On ne les enterrait pas sur le territoire français. Ils n'avaient pas d'extrait de naissance. Parce qu'ils étaient protestants, ils étaient des parias. Et pendant longtemps, ces régions étaient des régions austères. C'est ce qu'on appelait l'église du désert. Ils se cachaient même pour prier les dimanches. L'église de Smyrne a vécu cela. Et Jésus dit, pourtant, tu es riche. Même si matériellement tu es pauvre, spirituellement tu es riche. Parce que la richesse d'un chrétien, au-delà des bénédictions matérielles que Dieu peut lui accorder, c'est la richesse spirituelle, cette réconciliation avec Dieu, cette transformation de sa vie que Dieu opère en lui, que personne d'autre ne peut opérer. Ce changement de vision de vie, de caractère qui nous fait échapper à tant de malheurs, à tant de pièges, et qui fait de nous des hommes et des femmes à la gloire de Dieu. C'est une richesse. Il dit à Smi, tu es riche. Elle était riche aussi à cause de toutes les promesses de Dieu. Dieu a promis que même s'il y avait la douleur et la souffrance, qu'il serait là. On raconte du martyr d'Ignace que lorsqu'il était en train d'être martyrisé, je crois que c'était au bûcher, ses bourreaux étaient stupéfaits parce qu'ils voyaient quelqu'un qui brûlait dans le feu, mais dont le visage n'exprimait pas la souffrance. Et Dieu fait ça, parce que même Étienne, dans les actes des apôtres, la Bible dit, lorsqu'on le lapidait, le visage d'Étienne était rayonnant. Au point où il a pu répéter la même phrase que Jésus, il a demandé pardon pour ses bourreaux. Le premier martyr de l'Église, Étienne. Dieu ne fait aucun reproche à cette église de Smyrne. Aucun reproche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré qu'ils étaient dans le dénuement, ça n'a pas été un objet pour eux d'avoir une foi faible. Leur foi était forte, au contraire. On a toujours l'impression que quand tout va bien dans la vie de nos églises, il y a du relâchement. Quand l'église vit dans un contexte de paix, elle se relâche. Et historiquement, c'est prouvé à chaque fois que l'Église traverse des périodes de persécution, c'est une Église toujours forte, toujours solide, toujours attachée à son Dieu. Et pourtant, la mort est là, devant eux. Et non, c'est pas la mort qui est là. C'est plutôt la vie, n'est-ce pas? Le progrès social, l'évolution de notre société, on est bien. Et par contre, notre foi est-elle aussi solide que celle de Smyrne? Jésus encourage cette église. Il exhorte à prendre courage. Il dit, prends courage. Comme si Jésus disait, je suis fier de toi. Je suis fier de vous, chrétiens de Smyrne. Vous souffrez pour mon nom et vous ne baissez pas les bras. Vous ne me tournez pas le dos. Malgré que, humainement, je ne vous secoue pas. Parce que si je suis le Dieu Tout-Puissant, vous aurez pu dire, où es-tu, Seigneur? Pourquoi tu ne nous délivres pas de ces morts si atroces? Vous n'avez pas fait cette réflexion-là. Jusqu'au bout, vous avez dit, je ne lâcherai pas mon Dieu. Il semble, si mes souvenirs sont bons, que lorsque Ignace a été martyrisé, il avait 80 ans à peu près. Un peu plus. Et l'une des choses qu'il a dites à ses bourreaux qui lui demandaient de régner Jésus, il dit, voilà à peu près 80 ans que ce Dieu est rentré dans ma vie et il ne m'a fait aucun mal. Pourquoi le régnerai-je? Pourquoi le régnerai-je? Ce Dieu a été toujours là avec moi, au contraire. Que Dieu nous aide bien aimés. Parfois, les persécutions qui sont liées à notre éthique chrétienne, les persécutions qui ne sont pas des vraies persécutions parce que nos vies ne sont pas en danger, mais, l'accès peut-être à telle position, hein, l'accès à telle chose, nous est quelquefois refusé parce que nous sommes chrétiens et que nous nous positionnons clairement parfois vis-à-vis de certaines choses, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a même peur de prêcher certains textes. Est-ce que c'est normal d'avoir peur de prêcher la Bible? Parce que on a peur que la société nous regarde mal, nous dise, oulala, c'est conservateur, vous êtes dépassé, vous. Hein? Mettez-vous un peu à jour. Ça, c'est dans la préhistoire qu'on faisait encore ça. Vous en êtes encore là? Oulala, vous êtes obtus. Modernisez-vous un peu. Soyez dans l'air du temps. Mettez-vous à la page. Et l'Église est prompte à se mettre à la page, malheureusement. Parce qu'il ne faut pas fâcher les gens. Parce que de toutes les façons, dans la société, soyez en paix avec tout le monde, au prix même de la compromission, non. La Bible est la parole de Dieu et tout ce qui est dit est parole de Dieu. Et je crois et je veux continuer à croire que l'Église continue de prêcher la parole avec tout ce qu'elle a dedans comme vérité. Nous qui sommes là, nous ne sommes pas des super hommes, non. Nous étions pécheurs, nous sommes toujours pécheurs, mais Christ nous a montré notre état. Nous avons reconnu ce que nous étions et nous avons dit, viens à notre secours. Et il est venu à notre secours et nous a transformés. Ce n'est pas de notre propre force que nous sommes devenus ce que nous sommes. C'est la grâce de Dieu que nous avons saisie par la foi. Et nous voulons continuer de dire, cette grâce est disponible. Et Dieu la donne toujours. Même au péril d'être mal vu, même au péril d'être mal considéré, même au péril de la mort. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et nous pouvons remercier le Seigneur pour cela. Et Jésus dit à Smith, sois fidèle jusqu'à la mort. Ouh là là, sois fidèle jusqu'à la mort. L'apôtre Paul a pu dire, pour que la perspective de la mort ne soit pas quelque chose qui nous effraie, il faut considérer qu'en fait les promesses de Dieu, elles ne sont pas que pour cette vie présente. Parce qu'on est tous bien d'accord qu'un jour ou l'autre, nous partirons. La question c'est, où iras-tu? Où iras-tu quand ce jour final sera là? Où iras-tu? La Bible est sans équivoque. La Bible dit qu'il n'y a que deux chemins. Soit avec Dieu, soit sans Dieu. Le chemin sans Dieu est un chemin de souffrance éternelle. Et le chemin avec Dieu s'appelle le paradis. Il dit, choisis aujourd'hui où tu veux vivre ton éternité. Quelqu'un disait, que vaut 150 ans dans l'éternité? Si nous sommes convaincus que nous avons une âme vivante, et c'est ce que la Bible dit, et que cette âme, au-delà de la mort, reste vivante, mieux vaut se préoccuper de ce qu'elle va devenir pour l'éternité. Jésus a cette parabole dans les livres de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 15, il dit, un homme riche a dit, j'ai compris, moi j'ai tout compris. Ici sur la terre, pour être bien, il faut amasser des richesses. Non seulement je vais les amasser pour moi, mais pour qu'aussi mes générations soient tranquilles. Et la Bible dit qu'il s'est donné vraiment les moyens d'amasser des richesses. Il a travaillé dur. Il a agrandi ses granges, ses greniers, il a amassé. Et quand il a fini de faire tout ça, la Bible dit qu'il s'est assis. Jésus dit qu'il s'est assis, il a dit, mon âme, tu peux maintenant te reposer. Tu peux te tranquilliser. Tu as la sécurité qu'il faut. Et Jésus dit qu'une voix se fit entendre dans le ciel et la voix lui dit, insensé que tu es. En fait, le mot insensé, c'est sot, fou que tu es. Tu crois que la vie d'une âme est dans le matériel? Il dit, quelle que soit la richesse d'un homme, sa vie ne dépend pas de sa richesse. Sa vie dépend de Dieu. Et Jésus dit, la voix dit, dès ce soir, ton âme te sera ôtée et tout ce que tu as emmagasiné, à qui cela profitera, tu me le diras. Jésus n'est pas en train de dire que les richesses ne sont pas importantes. Il est en train de dire, attention à vos priorités. Les priorités, ce n'est pas d'abord la richesse, même si elle est nécessaire. C'est le salut de l'âme, parce que c'est celle-là qui est éternelle. Et l'adage populaire dit, allez voir la tombe des riches. Allez voir s'ils y sont encore. Ils y sont plus. Même si quelquefois on les a enterrés avec leurs richesses, les richesses ils y sont, mais eux, ils y sont plus. C'est pour cela que Jésus dit, si tu résistes l'église de Smyrne jusqu'à la mort, tu auras la vie éternelle. La promesse de Dieu est pour cette vie présente, mais aussi pour la vie éternelle, bien-aimé. Que Dieu nous aide à considérer cette éternité, à ne pas toujours considérer des temps limités. Regardons au-delà. Si on regarde les temps limités, ça force notre regard sur le vécu de la parole de Dieu. Mais si on regarde à l'éternité, ça nous encourage à dire, ça vaut la peine cet investissement-là. C'est un investissement qui vaut la peine. Car je le fais pour ici, mais je le fais aussi pour là-bas. On cite un grand écrivain français qui a dit, de toutes les façons, vaut mieux croire. Il dit pourquoi? Il dit, si tu crois et que tu meurs et que Dieu existe, bah, honnêtement, t'as bien fait. Mais si tu ne crois pas et que tu meurs et que Dieu existe, là tu seras bien embêté. Il dit des deux, le meilleur pari que tu puisses faire, c'est de croire. Parce que tu ne perds rien. Si tu crois qu'il est là-bas, tu es sauvé. S'il n'est pas là-bas, de toutes les façons, tu ne perds rien. Mais si tu ne crois pas et qu'il est là-bas, là tu as tout perdu. Là tu as tout perdu. Nous parlons d'éternité, bien-aimés. Parfois, on a limité la parole de Dieu aux promesses matérielles, à la vie de maintenant, à l'aisance sociale, au devenir dans les années qui viennent, dans les siècles qui viennent. Non, la Bible dit oui, Dieu se préoccupe de notre quotidien, comme il se préoccupe des oiseaux du ciel, des fleurs, des champs, mais il se préoccupe bien plus de notre éternité. Parce que lui, il est éternel pour la durée des temps. Dieu règne. Où passeras-tu ton éternité? On va s'arrêter là. Pour ce matin, on aura l'occasion de revenir sur les autres églises pour en tirer des conclusions essentielles. Pour ce matin, retenons simplement que notre richesse ne dépend pas de ce que nous avons. Elle dépend de notre relation à Dieu, de la qualité de cette relation. Nous sommes dans un temps de paix, jouissons de son temps de paix avec reconnaissance et approchons-nous de notre Dieu. Grandissons dans notre foi chrétienne pendant qu'il est temps. La Bible dit quand il fait jour, c'est là qu'il faut travailler à son salut. Car la nuit vient où personne ne peut plus travailler. Prions. Te bénissons, Seigneur. Merci pour ta grâce qui nous a touchés. Nous sommes ton église. Et tu dis à cette église de Smyr, tu es pauvre, mais tu es riche. Tu es riche parce que tu es resté fidèle malgré la mort, malgré la persécution, malgré les difficultés de la vie, malgré les épreuves, malgré les échecs, malgré les portes fermées, malgré un avenir incertain, tu es resté fidèle. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes conscients que nos vies ne sont pas toujours des vies de difficultés parce que dans la majorité des cas, nos vies sont bénies de toi, notre Dieu. Mais je prie que quand des temps de difficultés sont là, des temps d'incertitude, des temps de blocage, des temps où nous ne voyons pas comment notre foi chrétienne peut nous aider à aller mieux ou à faire mieux, aide-nous à être comme l'église de Smyr, à garder la foi en toi, à rester fidèle à ta parole. En nom de Jésus.